Mais d'abord, Monsieur Lavoie, est-ce que vous êtes là?
Je m'excuse, je n'avais pas pesé suffisamment fort sur le piton.
Bon, voilà. Très bien. Voilà. Je pensais que c'était cette histoire de nudiste qui t'avait troublé. Puis là, t'étais... Mais c'est pas ça, c'est une histoire de piton. Alors, très bien.
C'est une histoire de piton.
Oui, très bien. Alors, tu vas nous parler de M. Trump?
Je vais te parler de M. Trump, mais moi, je pense que oui, parce que M. Trump, tiens, puisque tu en parles, on va en parler tout de suite. Il doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024, lors de sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche.
Hein?
Eh oui.
Il fait ça pour décourager les éventuels adversaires?
Possiblement, mais j'ai une autre théorie, c'est que je pense qu'il commence à trouver le temps pas mal difficile, M. Trump.
Il manque d'attention?
Ben, c'est-à-dire, il manque d'argent. Il y a des enquêtes contre lui partout.
Mais que ça change le fait qu'il se déclare à la présidentielle, il va aller ramasser de l'argent, c'est ça?
Ben exactement. Exactement. Il y a un besoin...
Es-tu sérieux?
Je suis très sérieux, oui. C'est très sérieux. Alors là, il va prendre la parole à ce qu'on appelle CPAC. C'est très connu aux États-Unis. C'est le Conservative Political Action Conference. C'est là vraiment que toute cette pensée de la droite s'est exprimée à travers les années. Ça va pas être facile pour lui parce que, je veux dire, il y a quand même des milliers de républicains qui ont abandonné le parti à cause de ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole.
Oui, il y a déjà 74 ans. Ça veut dire qu'il se présenterait à la présidence à l'âge de 78 ans.
Exactement, oui.
Et Biden avait ça, 78, si je ne me trompe pas. Hein,
exactement.
C'est ça? Ouais,
exactement.
Hein?
Okay. Alors, Trump, comprends-tu, il y a quand même 59% des républicains qui affirment le vouloir comme chef de leur parti en 2024. Faut le faire. Hein? Alors, c'est l'annonce que M. Trump va nous faire.
Mm.
Je pense personnellement que ça va aller nulle part et que plus le temps va passer, plus Trump va être insignifiantisé. Je sais pas si le mot est, je viens de l'inventer. Là,
mais je pense que on a tous compris ce que tu voulais dire, en tout cas.
En tout cas, M. Trump, d'après moi, tu sais, on va sortir de la pandémie. C'est le début d'un temps nouveau. Je pense qu'il va disparaître et je le souhaite ardemment parce que franchement, il est rendu qu'il me tape vraiment sur les nerfs et je suis pas le seul dans cette position-là.
Mais ça allait bien. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. On s'en portait très, très bien.
Et tout à fait.
Oui, on s'en portait très, très bien. Évidemment, c'est l'occasion de dire pour ceux et celles qui l'avaient peut-être oublié que à 16h cet après-midi, M. Biden, le successeur de Trump, va avoir sa première rencontre avec un chef d'État étranger. C'est avec Justin Trudeau qu'il va l'avoir à 16h.
Voilà.
Hein?
Ouais. Et voilà. La seule fois où la tradition, il y a deux fois depuis la Deuxième Guerre mondiale où la tradition d'une première visite du président américain au Canada, il y a deux fois que ça n'a pas été respecté sous George W. Bush et sous M. Trump. Mais là, évidemment...
Ils étaient allés au Mexique dans les deux cas. Hein?
Oui, exactement.
Ah, c'est ça. Ouais.
On parle donc d'une visite virtuelle, cette fois-ci, pandémie oblige.
Oui.
Alors, ils vont d'abord y avoir une rencontre bilatérale, c'est-à-dire un tête-à-tête entre Trudeau et Biden, qui va être suivi. Tu sais, Biden va être dans le bureau ovale, Trudeau dans son bureau, puis ça va être un tête-à-tête. Puis ensuite, le reste de l'équipe, Blinken, le conseiller à sécurité nationale, Sullivan, Christopher Freeland, Mark Garneau et d'autres. Mm. Et là, on s'attend à ce que Trudeau demande de l'aide à Biden pour que le Canada obtienne des vaccins contre la COVID-19.
Ouais, j'ai testé cette hypothèse-là auprès du cabinet du premier ministre hier.
Oui.
Puis ils m'ont dit non, c'est pas à l'agenda. Moi je reste quand même aux aguets là, peut-être que Biden va nous dire quand on aura atteint un certain niveau de vaccination aux États-Unis, on sera prêt à vous en envoyer de nos usines sur notre territoire là.
Ouais,
mais ce qu'on m'a dit moi au cabinet du premier ministre hier quand je leur ai posé la question, Luc, ils m'ont dit avec les livraisons qui sont prévues dans les prochaines semaines, les livraisons de Pfizer et de Moderna, on pense pas avoir besoin des doses américaines.
Voilà. Mais ce qui va surtout être au cœur de cela, et là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont tort. On pense traditionnellement au Canada que les démocrates constituent un meilleur ami, un meilleur allié du pays que les républicains. Or, c'est pas ça que l'histoire a démontré. Pourquoi? Parce que les démocrates ont des origines qui ressemblent au NPD ici au Canada, très, très associés avec les grands mouvements ouvriers aux États-Unis, et qu'ils sont donc des protectionnistes dans l'âme. Et ça, le Canada, pour le Canada, c'est terrible, cette affaire-là.
Oui.
Et là, il va...
Mais le monde syndical américain, Luc, n'est plus ce qu'il était, là, on s'entend.
Il n'est
hein?
plus ce qu'il était, mais il est encore là. Il est encore là.
Dans les, essentiellement dans les villes et les États, là, les administrations publiques des villes et des États. Ouais. À part ça, là, il est plus dans le privé, ça tire plus fort dans
le
privé.
C'est vrai. Alors... Évidemment, il a déjà annoncé son Buy America Act, où il veut faire en sorte que les grands projets d'infrastructure qu'il s'apprête à lancer favorisent les fournisseurs américains.
Favorisent les entreprises installées aux États-Unis. La question est de savoir, Luc, c'est un enjeu très important que tu viens de souligner. C'est, dans le fond, le pourcentage de contenu américain dans les contrats, là, il va le mettre où? Tu sais, par exemple, pour le matériel roulant, là, si tu veux vendre des autobus actuellement à une ville américaine là, ou à un État américain, bon, ben il faut que 70 % de l'autobus soit assemblé aux États-Unis. T'sais? Fait qu'il va-tu faire la même chose pour tous les contrats publics?
Je le sais pas, mais c'est une chose qui préoccupe à juste titre le Canada. C'est comme, mais Jen Psaki, la porte-parole du président, a dit hier, on voit pas de changement dans ça. Il a signé un décret présidentiel et aucun changement n'est prévu. Ils vont aussi parler, mais ça va être court, de l'annulation de l'expansion du pipeline Keystone XL. Ouais.
Je pense qu'il
là-dessus, Biden ne veut pas reculer. Ben, là, il a dit c'est fini.
Trudeau, ils l'ont mis à l'agenda pour que Trudeau puisse dire aux Albertains j'ai essayé une dernière fois.
Ouais, c'est ça.
Hein?
Mais, et là, je vais terminer sur cet aspect-là de ce qui se passe. M. Trudeau et Biden devraient aussi discuter de la Chine, où les Canadiens Kovrig et Ispavor, les deux Michael, comme on dit, sont détenus depuis plus de 2 ans. Et ça m'amène au dernier sujet que je veux souligner, que je veux discuter, Bernard.
Oui.
Ça fait pas beaucoup de bruit présentement, mais ça va en faire pas à peu près bientôt. Les élus fédéraux, hier, nos députés ont adopté, par un vote de 266-0, une motion stipulant que la Chambre reconnaisse qu'un génocide est actuellement perpétré par la République populaire de Chine contre les Ouïghours et d'autres musulmans turciques. Et en plus, il y a un amendement du Bloc québécois qui est venu s'ajouter, qui exige également le déménagement des Jeux olympiques de Pékin en 2022.
C'est ça. Pas l'annulation des Jeux, mais le déménagement des Jeux.
Ouais. Et là, il s'est passé quelque chose, moi, que j'ai jamais vu. Le premier ministre et tous les membres de son conseil des ministres ont décidé de ne pas voter. Donc, ils se sont absentés. C'est dur à justifier, mais enfin...
Moi, je les comprends, Luc.
Oui, je les comprends. Je les comprends à cause des deux Michael.
Exactement. Sauf que les
Chinois, ils le prennent pas comme ça. Puis j'écoutais Guy Saint-Jacques hier, qui était à une émission de Radio-Canada, je crois, et l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Et puis, il disait,
c'est une claque sur la gueule.
Non, ben c'est une énorme claque sur la gueule. Puis pour les Chinois, la Chambre des communes, pour eux autres, c'est le Parlement, puis ça finit, là.
Ah, ils font pas la différence entre le législatif puis l'exécutif, là-bas, là.
Exactement.
C'est le Parti
communiste.
Alors
ça a déjà commencé, les réactions. Bon, on a été le premier pays où l'Assemblée législative a condamné le génocide en Chine. C'est une motion qui est pas contraignante. Puis le gouvernement n'est pas obligé d'adopter officiellement cette position. Mais je rappelle à tout le monde que la Convention sur le génocide des Nations unies oblige ces États signataires à punir de tels actes. À l'heure actuelle, les secrétaires d'État américains Mike Pompeo sous Trump et Blinken sous Biden se sont prononcés eux aussi en ce sens, mais Biden ne l'a pas encore fait. Mais là où c'est du jamais vu, en tout cas de mon vivant, l'ambassade de Chine à Ottawa est devenue d'une agressivité. Écoute les mots employés, parce que ce matin, il y a un document qui a été rendu public par l'ambassade de Chine, sa réaction en quelque sorte. Hypocrite, méprisable, arrogant, ignorant. C'était une espèce de litanie de reproches de l'ambassade de Chine au Canada. C'est la deuxième fois en 2 semaines là, qu'ils sortent et qu'ils font des menaces. La dernière fois, c'était contre la détention arbitraire. Et là, écoute ça, là. Tout en affirmant que les enjeux de Xinjiang, c'est là où vivent les Ouïghours, ne concerne pas les droits humains, l'ethnicité ou la religion, mais bien la lutte contre le terrorisme violent et la sécession. Oh, oh. Ouais, il a parlé de gestes disgracieux des élus fédéraux qui constituent selon lui une grossière ingérence dans les affaires de la Chine et une provocation malveillante à l'endroit des 1,4 milliards de Chinois. Écoute, c'est comme exhortons, dit-il toujours dans ce même texte, ces politiciens à cesser de s'ingérer dans les affaires internes de la Chine, de cesser d'utiliser l'enjeu lié aux Xinjiang pour leurs propres intérêts et de cesser de prendre part à cette farce anti-Chine, sans quoi ils finiront par s'humilier eux-mêmes. Oh boy! Ouais. Il a même parlé d'étroitesse d'esprit de la part des politiciens canadiens.
Mais tant que ça reste au niveau des insultes, c'est de ça dont on parle ici, là.
Ouais, on appelle ça la diplomatie des mégaphones, mais la Chine, la dernière fois qu'ils ont adopté un ton comme ça, c'est quand Meng Wanzhou a été arrêté à Vancouver. Et la conséquence a été assez grave. T'as deux citoyens canadiens qui sont en train de croupir dans une prison en Chine. Et ce ton-là est un ton que j'ai jamais vu en diplomatie quand cela implique le Canada. Ce sont des mots qu'on utilise parfois quand des pays qui sont en guerre ou au bord de la guerre.
Ben c'est ce que je craignais, moi, tout à l'heure, quand tu faisais la lecture là, de la réaction, je craignais à un moment donné là des mots là du genre c'est considéré comme un acte d'hostilité ou tu sais, je craignais des mots comme ceux-là là. Mais bon, ils en sont restés au niveau des insultes dures. Je suis d'accord avec toi, Luc.
Écoute, grossière ingérence dans les affaires de la Chine, provocation malveillante à l'endroit des 1,4 milliards de Chinois. Je te dis, Bernard, qu'on est proche de... Je vois pas comment il pourrait aller vraiment plus loin.
On est proche du conflit.
Rapidement, je veux dire aux gens qui nous écoutent, qui se demandent c'est quoi tout ça. Les Ouïghours, c'est une minorité d'origine turque, enfin, qui est de la même ethnie que les Turcs, qui parle une langue qui s'apparente à celle de la Turquie. Et qui
pratique la religion musulmane.
Et qui pratique la religion musulmane. Et il y a toujours eu des relations tendues avec Pékin, mais à un moment donné, quand il y a eu le septembre 2001, il y a eu des Ouïghours qui ont donné leur appui à ce qui était arrivé, puis là, la Chine a décidé que ça suffisait, puis ils ont graduellement commencé à leur serrer la vis, puis là, on est rendu à un point où c'est vraiment un scandale humanitaire absolument incroyable. On stérilise les femmes en âge de procréer de force. On les enferme dans des camps de travail. On les torture. Il y a 2 millions de personnes, des Ouïghours, qui sont présentement dans ce qu'eux appellent des camps de rééducation. C'est là, paraît-il, que se produit la torture. Ils diminuent en nombre. Ils étaient 8 millions quelque chose. Ils sont rendus 7,2 millions. Vraiment, ça a toutes les allures d'un véritable génocide. Et on se pose la question, tu te souviens peut-être que quand il y a eu le génocide au Rwanda, Bill Clinton avait dit à la fin de sa présidence que ça avait été sa plus grave erreur que de ne pas intervenir avant. Ici, on parle d'un génocide au moins comparable à celui des... voyons donc, on en parle des Arméniens, et ça a même le risque de dégénérer et de devenir aussi pire que le génocide des Juifs, l'Holocauste. Alors, est-ce qu'on peut rester comme ça, silencieux devant une telle chose?
Donc, tu es d'accord avec la motion qui a été votée hier?
Ben, je suis d'accord avec la motion, je suis pas sûr de la tactique. Je veux dire, le contenu de la motion est totalement... ça correspond totalement à ce que je pense. Mais dans la pratique... est-ce que ça va empirer les choses? Je pense que oui. Oublie pas que Meng Wanzhou est encore en résidence surveillée à Vancouver. Donc, les problèmes avec la Chine, loin de se régler, se détériorent à vue d'œil. Et la Chine est de plus en plus agressive dans son comportement.
Mais Luc, à un moment donné, toi puis moi, là, on va avoir une bonne discussion. Jusqu'où il faut plier devant la Chine, là? Je comprends que c'est un grand groupe économique, là. C'est une puissance économique montante et on dépend de la Chine pour toutes sortes de produits de consommation, tout ça. Mais à un moment donné, Luc, c'est vers ça qu'on s'en va, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue de considérer la Chine comme un partenaire commercial, notamment.
Mais c'est un partenaire commercial.
Ouais, mais c'est parce que, la question est de savoir, Luc, si, à partir de quand est-ce qu'on dit non, c'est assez? Où est-ce qu'on tire la ligne?
Si on veut agir pour avoir des résultats, si ce sont les résultats qui nous intéressent, on est un pays comme le Canada, c'est-à-dire une puissance moyenne.
Ah non, mais on peut pas faire ça tout seul. Là. Quand ben, je faut, dis ben, nous, là, je parle pas du Canada. Là. Je parle du monde occidental.
Il faut bâtir une coalition du monde occidental dire à la Chine, ceci suffit. On l'accepte pas.
Plus qu'occidental, je dirais les pays démocratiques.
Parce que
le Japon n'est pas un pays occidental, puis je pense qu'il pourrait faire partie d'une coalition.
L'Inde aussi, en passant. Bon, c'est une démocratie, l'Inde.
Bon, puis ils ont un conflit.
L'Inde, c'est aussi un ennemi séculaire de la Chine.
Oui, ils ont un conflit.
Alors, c'est une situation assez explosive. Et depuis l'arrivée de Xi Jinping, là, qui est le grand patron de la Chine depuis une dizaine d'années à peu près,
et qui s'est fait donner le pouvoir à vie, là.
Oui, qui s'est fait donner le pouvoir à vie. Le ton, l'agressivité, les méthodes de la Chine ont rien pour nous rassurer parce qu'ils sont en train de dépasser les États-Unis comme première puissance économique du monde. On pense que ce sera le cas dans 2 ans.
Bon, la question que tu poses, puis il faut vraiment s'arrêter, c'est est-ce que c'est une bonne idée que ce soit le Canada qui soit en pointe là-dessus, qu'on soit les premiers? C'est un peu ça, là.
Ça résume très bien la situation.
Très bien. Alors, mon cher Luc, on se reparle un peu plus tard quand on va parler hockey.
Voilà.
Très bien, très bien. À tout à l'heure. On s'en va à la pause au retour. Histoire de tout nu. Deux histoires de tout nu.